Bonjour, 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 galérienne, galérien. Eh ben oui, aujourd'hui, ça change. On commence sans le générique. Il y a eu un petit dérapage, là, je sais pas. Enfin bon, vous savez, ça arrive. Tout va bien à la technique, c'est Jules. Tout va bien au studio, c'est Dominique, seule. Françoise est absente cette semaine. Mais en ce mercredi 28 mai, eh bien, nous allons nous faire un Livres et Amis. Super, bien sûr. D'autant qu'il semble que l'été arrive. Encore un peu de vent, peut-être même Mistral demain, mais enfin quand même. Soleil, augmentation des températures, ça l'est, c'est le sud. Alors ça m'a donné envie pour Livres et Amis de reprendre le large et de voyager en littérature. Nous allons donc pour cette émission de Livres et Amis du mercredi 28 mai prendre le large, disais-je, avec un voyage, le voyage autour du monde. C'est même le titre officiel. Le voyage autour du monde par la frégate du roi La Boudeuse et la flûte L'Étoile en 1766, 67, 68 et 69 par Louis-Antoine de Bougainville. Alors oui, nous partons. Vous vous souvenez qu'il y a 2 semaines, nous avions déjà été voir les tropiques avec un voyage révolutionnaire anticolonialiste et antiraciste. C'était les cahiers d'un retour au pays natal de Aimé Césaire. Mais cette semaine, nous lirons la clandestine du voyage de Bougainville. Et en fait, c'est un voyage planétaire, oui, mais féministe, que nous commençons. C'est avec une femme que nous embarquons à bord de la flûte L'Étoile, effectivement, en 1766. Alors, le livre de départ qui a donné l'idée à beaucoup d'autres d'écrire sur ce voyage, c'était le livre de Louis-Antoine de Bougainville, qui justement était le journal de bord de son voyage autour du monde sur la frégate du roi La Boudeuse et sur la flûte L'Étoile. Louis-Antoine de Bougainville était le chef de l'expédition sur La Boudeuse et la flûte L'Étoile, c'était un peu le navire ravitailleur de l'expédition. Alors Louis-Antoine de Bougainville, à cette époque, au XVIIIe siècle, c'est le roi Louis XV qui règne. Louis-Antoine de Bougainville donc est un militaire qui s'est illustré déjà au combat au Canada, en Europe. Mais c'est aussi un scientifique. Et le voyage autour du monde de Bougainville, c'est un voyage d'appropriation territoriale, d'abord, pour la couronne de France. C'est aussi un voyage économique pour trouver et rapporter des épices qui représentent des fortunes à l'époque. Et puis, c'est quand même, malgré tout, un voyage scientifique qui a pour but de connaître le monde, de découvrir la Terre. Sur les 2 vaisseaux de l'expédition embarquent donc, en plus de Louis-Antoine de Bougainville, qui est militaire mais aussi scientifique lui-même, un astronome qui va étudier les mouvements des planètes à partir des différents points de la Terre, un ingénieur cartographe et puis un botaniste, Philibert Commerson. Et Bougainville, donc, au retour de son expédition, va ramener avec lui à Paris un Tahitien, un chef de tribu qu'il a trouvé dans l'île de Tahiti et qui a voulu l'accompagner et qui va constituer une des curiosités de l'année 1769 à Paris. Donc le voyage a beaucoup de retombées scientifiques, culturelles dans toute l'Europe. Et sur le plan littéraire, c'est en fait le point de départ d'une mode de l'écriture exotique, pourrait-on dire. Puisque après le tour du monde de Bougainville, vont être publiés le supplément au voyage de Bougainville de Denis Diderot, mais aussi de nombreux récits de voyage ou des discussions autour de ces voyages. Alors, le livre de Diderot, le supplément au voyage de Bougainville, il est écrit en 1772, il ne paraîtra qu'en 1796, mais de nombreux extraits sont lus dans les salons. Et vous le savez sûrement, le supplément au voyage de Bougainville de Diderot, c'est en fait une discussion philosophique sur certains éléments du voyage, les découvertes, les populations, etc. Alors aujourd'hui, ce que nous lisons, ce que nous allons lire avec vous, on pourrait dire que c'est un autre supplément au voyage de Bougainville. C'est un roman de Michel Kahn qui s'appelle « La clandestine du voyage de Bougainville ». Et dans ce livre publié en 2014, qui est un roman, il y a d'abord et aussi un récit très documenté du voyage de Bougainville, mais qui est cette fois centré sur le personnage de Jeanne Barret, la compagne de Philibert Commerçant, qui a embarqué sur l'étoile en tant que domestique masculin de Philibert Commerçant, puisque à l'époque, les femmes sont interdites de navigation sur les vaisseaux du roi. Jeanne devient donc Jean et elle est une clandestine dans la mesure où elle est une femme clandestine, mais elle va véritablement jouer un rôle, on pourrait dire pivot, dans l'organisation de l'exploration botaniste, animalière, naturaliste de l'ensemble des recherches de Philibert Commerçant. Elle va non seulement être son valet, mais surtout son aide pour tout ce qui est recherche, collecte, classement, etc. Et le livre de Michel Kahn, donc « La clandestine du voyage de Bougainville », vous allez voir, c'est un vrai plaisir littéraire dans un style tout à fait vivant et alerte. Le récit fait souvent la part belle à des descriptions multiples des découvertes de Jeanne Barret autour du monde. Et alors, sans attendre, nous allons commencer, non pas autour du monde, mais à Rochefort. Rochefort-en-Terre, Rochefort-en-Terre maintenant, qui était quand même en mer au XVIIIe siècle, ou du moins qui était un port encore non ensablé. Et c'est du port de Rochefort que part la flûte L'Étoile en décembre 1766. Et commence le récit de Jeanne. La brise tournait du nord-est à l'ouest. Au-dessus de la rade, semblable à un lac immense, une vapeur légère tamisait le bleu du ciel. L'air résonnait du roulement des charrettes, du piaffement des chevaux, des cris et des appels en tous sens. Au long de la Charente, un cliquetis de chaînes accompagnait les forçats conduits par un peloton de soldats. On les attendait au bassin de Radoube pour travailler. Une odeur de goudron embrumait la corderie. Les matelots qui débarquaient le chanvre croisaient ceux qui embarquaient les cordages. La boulangerie délivrait les quintaux de biscuits. Vous savez, les biscuits, ce sont ces espèces de galettes de pain qui sont cuites non seulement deux fois, mais quatre fois, pour être embarquées sur les bateaux et pour servir d'aliment aux marins parce qu'elles ne pourriront pas, parce qu'elles ont été justement cuites un certain nombre de fois. Donc, le biscuit et puis les boulets de canon qui sont coulés par la forge avant d'être embarqués sur les bateaux qui doivent toujours se défendre en mer contre d'éventuels pirates, corsaires, etc. Dans l'atelier de Mathure se fabriquaient les mâts, les vergues, les barres, les hunes. Et trois vaisseaux étaient en construction à cette époque-là sous l'œil de leurs armateurs en train d'être carénés. Un capitaine promenait sa belle tout en surveillant l'armement de son navire. Les maîtres voiliers contrôlaient la confection des voiles triangulaires ou quadrangulaires et le feu des calfats produisait une fumée épaisse avec des coups de maillet qui résonnaient jusque sur les quais. Dans d'autres ateliers s'activaient les poulieurs, les menuisiers, les charpentiers, les peintres, les sculpteurs, les taillandiers, les tonneliers. Un vaisseau devant le magasin des colonies déchargeait des tonneaux de rhum et des balles de tissu en provenance des Amériques. Des négociants s'empressaient. À 50 pas de la rive, un bâtiment suédois chargeait son lest. Et cependant, tous les regards se tournaient vers le grand navire qui dansait au milieu de la rade. Et oui, on en parlait dans les tavernes, dans les maisons, dans les fermes et au presbytère. Il hantait les songes, c'était la flûte, l'étoile. Car l'étoile s'apprêtait à faire voile pour le tour du monde. Un équipage français se lançait pour la première fois dans cette expédition. Deux équipages, plus exactement. Puisque l'étoile naviguerait en effet sous le commandement de Monsieur de Bougainville, capitaine, qui flottait déjà sur la frégate La Boudeuse, partie de Paimbœuf en novembre.
l'étoile et la boudeuse devaient se rejoindre en Amérique du Sud pour entamer véritablement ce très long voyage. Et le roi avait donné la flûte l'étoile à la boudeuse à titre de vaisseau ravitailleur. Elle emporterait 2 ans de vivres pour 104 hommes, plus, s'il fallait d'un an même, il fallait avoir tout ce qu'il fallait pour se nourrir, pour se ravitailler, pour éventuellement réparer les bateaux, etc. Donc les deux navires se rejoindraient aux îles Malouines et poursuivraient ensemble. C'est vrai que la première mission de Monsieur de Bougainville était d'abord de céder à nouveau, de céder les Malouines aux Espagnols, qui les revendiquaient, alors que justement, lui, il avait découvert, entre guillemets, les Malouines pour les Français quelques années précédentes. Mais l'intérêt de l'expédition est plutôt scientifique, économique et commercial. Autant épris de la gloire de la France que de la sienne propre, le capitaine de Bougainville brûlait de reconnaître l'espace inconnu de l'hémisphère sud, qui passait pour être plus vaste qu'aucune des autres parties de la planète. Il prendrait possession de nouvelles terres au nom de la couronne, il trouverait des points de relâche commodes pour le commerce avec l'Orient, et on accéderait par là aux îles à épices et à métaux précieux, ressources qui permettraient à la France de surpasser l'Angleterre et la Hollande, qui pour l'instant dominent ce commerce. Alors, bien avant que d'être parti, il se prépare à imaginer un retour triomphal. Il faut dire que M. de Bougainville avait plusieurs cordes à son arc. C'était un vrai scientifique, un scientifique dans l'âme. Il avait fait des études de mathématiques en même temps que ses études de droit et ses études militaires. Et il avait, pour l'accompagner, jeté son dévolu sur Pierre-Antoine Véron, qui était donc astronome, mais aussi sur un médecin botaniste et naturaliste, Philibert Commerson. Voilà, ça y est. Le décor est planté, les personnages sont en place, mais Monsieur Commerson, lui, je ne sais pas si on doit dire de... Ah oui, j'ai fait boum sur le micro. Monsieur Commerson, lui, qui a donné son accord, bien sûr, pour faire l'expédition, pour participer à l'expédition, il s'inquiète d'avoir un assistant. Donc, le capitaine de Bougainville autorise Monsieur Commerson à prendre un assistant, l'aide d'un botaniste qui doit bien sûr posséder les rudiments de botanique, mais aussi ne redouter ni la faim, ni la soif, ni la marche sous le soleil, ni les nuits froides à la belle étoile. En fait, la famille de Commerson cherche à l'influencer et à lui faire emmener quelqu'un, un neveu par exemple. Mais l'oncle Philibert refuse. Sans explication, avec mauvaise humeur. Et à la dernière minute, juste avant d'embarquer, il trouve son homme, un parfait inconnu, dans une taverne de Rochefort. Un drôle d'homme en réalité, Jean Bonnefoy. Drôle d'homme, ce Jean Bonnefoy, mais oui. Il se dirige à présent vers l'embarcadère, son chapeau enfoncé jusqu'aux yeux, sa cape serrée autour de lui. Et il a une boule au ventre, le sang lui cogne aux tempes, la chair de poule lui hérisse le poil. Il se sent aussi nu qu'un poussin sorti de l'œuf. Ses jambes tremblent quand il monte à son tour dans la chaloupe, carrant les épaules afin de compenser sa taille médiocre. Et pour cause, car Jean Bonnefoy se nomme en réalité Jeanne Barret. Son déguisement n'amuse guère la jeune femme. Eh oui, la culotte lui procure le seul moyen de voir le monde, de vivre la vie en mer, de découvrir des êtres, des plantes et des animaux inconnus. Qu'un homme veuille tenter l'aventure, c'était facile pour s'engager, mais les femmes n'avaient pas le droit de se promener là où elles voulaient. Une ordonnance royale leur défendait de naviguer, justement, sur les vaisseaux royaux. Alors, si Jeanne se fait repérer, elle sera immédiatement mise au fer à fond de cale ou débarquée. C'est pour ça qu'elle a peur. Et elle se répète, pour se rassurer, que finalement la vie l'a jusqu'à là bien préparée à affronter les périls. Voilà, ça c'était pour faire connaissance avec ce que j'ai appelé le style vif et alerte de Michel Kahn dans La clandestine du voyage de Bougainville. Et maintenant, voyons en effet qui était Jeanne ou qui est Jean. Enfin, Jean, Jeanne, oui. En tout cas, Jeanne, elle est née dans une famille de paysans. Elle a vécu la dure vie des paysans du Morvan. Elle a appris précisément à s'occuper des plantes, à voir comment elles pouvaient pousser le mieux possible et comment on pouvait en tirer aussi le plus de choses possible. La petite, par exemple, aimait suivre sa mère dans les bois. Celle-ci connaissait les secrets des plantes, rapportait des racines sauvages, des châtaignes d'eau, des champignons, des herbes. Et en période de disette, par exemple, elle confectionnait un pain de fougère qui permettait à la famille d'échapper à la famine. Hélas, la mère de Jeanne est morte et celle-ci s'est retrouvée auprès d'une tante. Et puis, peu à peu, elle s'est retrouvée au service de Monsieur Philibert Commerson, médecin, qu'elle a rencontré dans la campagne. Parce que Monsieur Philibert Commerson, médecin, s'occupait aussi ou s'intéressait aussi beaucoup des plantes et de leurs pouvoirs médicinaux, bien sûr. Donc Philibert et Jeanne se retrouvent à faire des recherches, se retrouvent à utiliser le pouvoir des plantes. Et Philibert est bientôt très étonné de voir toute la science que Jeanne possède déjà, par exemple de tisanes qui guérissent et que même l'apothicaire de la ville voisine recommande. Eh oui, Jeanne a un vrai savoir des plantes. Donc Commerson va l'engager d'abord comme, disons, un aide ou une aide, à l'époque elle peut encore être une femme, une aide dans ses campagnes de recherche de plantes en France. Et bien sûr, quand Commerson accepte le voyage autour du monde de Bougainville, eh bien, c'est avec Jeanne, devenue Jean, qu'il va partir. Entre-temps, qu'ont-ils fait ? Ils ont emménagé à Paris, oui. Jeanne a été stupéfaite de voir la grande ville. Et puis, ils ont fait connaissance de tout un tas de domaines qui sont bien utiles à Jean ou Jeanne, autant qu'à Philibert. Le classement des plantes, les classements alphabétiques, les classements de genre, les classements de type. Jeanne, pas plus qu'elle n'avait imaginé le fourmillement de Paris, n'avait imaginé les complexités du classement naturaliste. Mais elle s'y fait, et en octobre 1766, quand M. de Bougainville appareille sur la boudeuse, le naturaliste emmène bien sur la flûte l'étoile son valet, Jean Bonnefoy, qui n'est autre, on l'a vu, que Jeanne Bourret. Alors oui, c'est vrai qu'elle entrevoit la possibilité d'un voyage fabuleux. Découvrir le monde la passionne. Et ça va être autre chose que de découvrir la France aux roues d'une diligence. Elle part cette fois-ci dans un vaisseau qui va faire le tour du monde. Ils ont donc tous les deux accepté le risque insensé de se cacher, ou enfin de cacher Jeanne en tout cas, sous un déguisement masculin. Elle avait déjà la dextérité des bons valets, il lui fallait maintenant s'imprégner de leur conduite attentive, patiente, modeste, sans oublier un brin de rudesse. Elle est un homme après tout. Alors, qui est-il ce laquais ? Il s'appelle Jean Bonnefoy et avant Philibert Commerson, il a été laquais chez un Genevois établi à Paris. Il veut voir la mer, il n'a pas d'attache. C'est ce qu'on raconte du valet de M. Philibert Commerson. C'est ce qu'on va dire de ce valet quand il embarque sur le vaisseau avec lui. Voilà, ils sont partis, nos deux personnages, et il tarde maintenant à Jean ou Jeanne, qui a embarqué, de retrouver sur les autres continents les plantes et leurs pouvoirs. Eh oui, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, n'est-ce pas, pour découvrir les plantes des autres continents ? C'est donc l'hiver 1767 que l'étoile apparaît pour de bon, après avoir connu un certain nombre de déboires dans sa préparation. Mais ça y est, cette fois-ci, on s'en va, on quitte l'Europe et il y a de nombreuses surprises qui attendent nos personnages. Ils vont d'abord, c'est la coutume à bord d'un bateau et même d'un vaisseau royal, ils vont franchir la ligne. Il y a une fête du passage de l'équateur qui est le baptême des marins novices. Philibert Commerson est de la fête, mais Jean ou Jeanne, qui craint d'être découverte, ne participe pas à la fête. Jeanne est terrée dans la cabine pendant que Philibert fait la fête. Et c'est lui qui va lui raconter les fêtes qui accompagnent donc le franchissement de l'équateur. Elle reste dans la cabine, mais la cacophonie de la fête parvient à ses oreilles. Elle ne regrette en rien d'avoir échappé aux réjouissances. Gestes et rires vulgaires, simulacres, grivoiseries accompagnent bien sûr cette fête. Elle déteste le spectacle des gens qui s'abandonnent à l'animalité et qui perdent le sens des valeurs. Mais le jour suivant, la fête est finie. Soleil, joli frais et belle-mère aident à se laver des fêtes quelquefois nauséabondes qui ont pris place pendant la journée précédente et la nuit. Et puis, on est au centre de l'océan Atlantique, on avance toute voile dehors, et on a parcouru déjà la moitié du chemin qui va vers l'Amérique. Alors, ce qui réjouit Jeanne à ce moment-là, c'est l'idée en effet de retrouver des plantes sur Terre, c'est aussi l'idée de découvrir ce qu'on appelle les sauvages. Il paraît qu'ils habitent en effet dans des forêts, se vêtent de feuilles, de peaux de bêtes, nagent, pêchent, chassent et cueillent. La vie qu'elle aime au fond. C'est sauvage, elle va sûrement, en les découvrant, bien s'intéresser à eux, comme elle s'intéressera à leurs pratiques. Alors, ça y est, sur le chemin de l'Amérique, Jeanne a encore bien des péripéties à vivre, mais elle va pouvoir véritablement entamer sa conquête d'un nouveau monde botanique et d'un nouveau monde culturel, bien sûr, avec les nouvelles populations des Amériques. Mais la température s'abaisse, les bestiaux qui constituent une des réserves de nourriture de l'équipage périssent et en arrivant précisément sur les côtes d'Amérique du Sud, il faut reconstituer les provisions. Alors on s'arrête longuement à Montevideo et à Rio de Janeiro, assez bizarrement dans cet ordre-là, puisque bien sûr l'autre équipage est descendu jusqu'au Malouine, donc les deux bateaux se retrouvent d'abord à Montevideo, parce qu'il faut réparer des avaries et que le site du port est mieux équipé que celui de Rio de Janeiro, mais aussi quand même à Rio, parce que là c'est plus facile de faire les provisions. On commence à découvrir avec les incidents de voyage que véritablement la navigation au XVIIIe siècle, c'est une aventure. Une véritable aventure qui se révèle d'abord par le fait que Bougainville et ses équipages découvrent au large de Buenos Aires, ou de Montevideo, du Rio de la Plata, un vaisseau qui a fait naufrage. Et oui, naufrage, ça existe, c'est un vaisseau anglais. Eux, ils poursuivent leur route, donc sur le Rio de la Plata, la rivière d'argent, et c'est une halte inespérée pour l'équipage de l'étoile. La terre, l'eau douce à volonté, Jeanne et Philibert exultent. Ils connaissent à nouveau ce bonheur d'être vivants sans la charge excessive de la vie sur le bateau, sans risquer d'être écrasés mille fois avec les ballots qui circulent sur le pont du bateau, avec les interminables vents de boue et les tourbillons qui quelquefois menacent d'engloutir le vaisseau. Montevideo, oui, qui n'est pas encore tout à fait la capitale du Paraguay. Montevideo, c'est surtout l'avant-port d'un arrière-pays merveilleux. Et Commerson et son valet descendent pour herboriser. Chaque matin, ils s'en vont à deux ou trois lieues et font une ample moisson qui charge les paniers du valet. Au départ, on a emporté un fusil, une carnassière, des provisions de bouche, des feuilles de papier, et on marche courbé par toute cette charge. Ensuite s'y ajoutent en effet les plantes, les rameaux, tout le matériel qu'on rapporte chaque jour sur le bateau. Mais c'est vrai que Jeanne devenue Jean, est une forte femme. Elle est bien solide et elle aide bien, vraiment, monsieur Commençon. Donc, pas de souci pour l'instant. Terre de rêve, oui, et en même temps, vie de rêve pour Commerçon et son valet qui herborise à leur grâce, pourrait-on dire, et à leur plaisir. Et puis, quelquefois, enfin, en cet hiver et printemps 1767, tout de même, dans la mesure où le mauvais temps revient, eh bien, ils sont un peu coincés à Montevideo, mais eux ne s'en plaignent pas. Jeanne et Philibert continuent leurs recherches, leurs collectes, et ils disent, oui, c'est un rêve, cette vie heureuse, cette vie qu'on a sous le soleil, et où on peut faire tant de découvertes, tant d'instants uniques à vivre, en même temps que les plantes qu'ils découvrent. Ils sont donc à Montevideo et lorsque Bougainville les rejoint, eh bien, ils vont appareiller pour Rio de Janeiro pour continuer à remplir le bateau, cette fois-ci non plus de découvertes botanistes, mais bien de vivres et de matériaux pour subvenir aux besoins de l'équipage pour le long voyage qui va désormais les emmener jusqu'au sud, c'est-à-dire jusqu'au détroit de Magellan, et surtout jusqu'à l'océan Pacifique. Ils savent qu'ils vont rencontrer bien des tempêtes en route. Donc pour le moment, ils profitent encore à Rio de Janeiro de la merveilleuse végétation et des merveilleux trésors de l'Amérique du Sud. Oranges, bananes, ananas qui se succèdent alors qu'ils sont en fait pour eux au cœur de l'hiver. Les arbres ne perdent jamais leurs feuilles. L'intérieur des terres est naturellement fertile en canne à sucre, en riz, en manioc. Jeanne a l'impression que les habitants n'ont qu'à s'en emparer, puisqu'ils pêchent en même temps dans la plus poissonneuse des mers. Et lorsqu'elle se souvient de son enfance difficile dans le Morvan, des retours répétés de la famine, elle a l'impression d'un Eldorado. Quelle belle vie mènent les habitants de ces pays! Pas toujours, sans doute, mais c'est ce qu'elle ressent. Avec les splendides vanilles, les poivres, les jasmins, les mimosas, les bigognes, les bégonias aussi. Tout cela, c'est vraiment merveilleux. C'est une flore si exubérante, si pleine de couleurs, si pleine de richesses, que Jeanne et Philibert exultent. Voilà, on va remonter à bord, trier la collecte et se mettre au travail théorique de classement de toutes ces plantes. Et puis tout de même, Commerçon a fait la découverte d'une plante qu'il trouve merveilleuse, avec des plantes d'un violet somptueux, et dans un grand élan de gratitude, il dédie cette plante au capitaine de l'expédition. Il baptise la fleur Bougainvillée. Voilà. Avant de poursuivre, puisque nous allons quitter l'Amérique latine, eh bien nous allons déjà un petit peu en avance sur le plan de route de Bougainville, de Commençon et de Jeanne Barret. Nous allons donc retrouver les Indes galantes, une autre image un peu rêvée de l'exotisme. Et ces Indes galantes de Rameau, c'est Jules qui va nous en passer un extrait. Thank you.
possible. Je vais avoir le désir de trouver ici mon cœur.
S'ils sont sensibles, s'ils sont sensibles, portez-le,
ce n'est pas au prix de tes femmes.
Merci Jules et merci Rameau pour cette belle musique de cour, bien sûr, et de ballet. Mais c'est vrai que c'était pour Rameau une évocation de l'exotisme et des fêtes des Indes galantes et des pays ultramarins. Si vous avez l'occasion, allez voir sur YouTube, il y a un superbe clip de l'interprétation des Indes galantes à l'Opéra de Paris il y a quelques années, avec un ballet contemporain qui est vraiment très très réussi. Donc nous quittons les Indes galantes pour le moment, nous retournons en Amérique du Sud avec ceux qu'on appelle tout de même les Indiens, puisque l'Amérique c'était les Indes occidentales. Et en fait, Bougainville, dont Michel Kahn, dans La clandestine du voyage de Bougainville, suit le récit de voyage, Bougainville donc s'intéresse aux populations et aussi à la faune et à la flore. Donc, quand on s'intéresse aux populations, il constate, par exemple, et Jeanne avec lui, que les Indiens, entre guillemets, qu'on croise en Amérique, sont certains plus rouges, certains plus jaunes. Et Jeanne, qui a l'esprit très ouvert, se dit que, bah oui, c'est vrai, les Blancs aussi en Europe n'ont pas tous le même teint. Donc ces Indiens, suivant les régions, sont différents les uns des autres. Et dans le Sud, puisque évidemment il y fait froid, ils portent des manteaux, fourrures en dedans, des longs manteaux en peau de chevreuil, qui sont gaiement colorés, teints sur l'extérieur. Et parfois, tout de même, elle observe qu'un certain nombre d'entre eux ont des lésions qui ressemblent à de la gale. Alors elle se dit, mais ne connaissent-ils pas l'herbe des gueux ? Eh oui, n'est-ce pas ? En Europe, on soigne la gale avec l'herbe des gueux. Et Monsieur de Bougainville, ou Monsieur Commerson, s'intéresse aussi, disions-nous, à la faune et à la flore. C'est un souci qui est aussi celui de Jeanne. Ils se consacreront tous, pendant des jours et des nuits, à identifier et à classer des plantes ou des animaux dont ils ont la révélation. Et puis, il y a des découvertes très pratiques. Par exemple, elle a cueilli une plante qui ressemble fortement à la véronique, que Commerson baptise Hebe Magellanica, n'est-ce pas, puisqu'elle a été récoltée sur le bord du détroit de Magellan.
Et il s'aperçoit que cette plante a des propriétés qu'on appellerait anti-inflammatoires et qui permettent de soigner les coups, les blessures et les débuts d'infection qu'ont quelquefois les membres de l'équipage. Mais hélas, leur navigation est contrariée par les problèmes qu'on pourrait appeler climatologiques. Les bourrasques qui entourent le détroit de Magellan génèrent des vacarmes terrifiants dans les voiles, les coques craquent et bien des fois, il faut arrêter la navigation de crainte d'être bousculé et même naufragé justement par les vagues. La navigation pénible accapare toutes les forces des matelots. Les journaux de bord s'emplissent d'observations sur les routes à tenir, les dangers à éviter, les manœuvres, la longueur des distances, la dangerosité des fonds. Donc Bougainville, en capitaine respectueux de ses vaisseaux et de ses matelots, tient compte de tout cela et ne veut pas franchir le détroit dans des circonstances trop dangereuses. Il attend de meilleures conditions climatiques pour passer effectivement le détroit. Ils finissent donc par traverser avec bien du mal la première passe, puis la deuxième. Et dans son journal de bord, Bougainville fait son bilan. Le voyage fut âpre, mais finalement pas trop cher payé. Jusqu'à la fin de sa vie, le capitaine se souviendra de son émotion en foulant la pointe la plus méridionale de l'Amérique. En dessous du cap, il y avait une petite extrémité de roche, et sur ce petit promontoire, le capitaine a fait arborer le pavillon français en criant « Vive le roi !» Quel autre monarque aurait pu se vanter de pareilles conquêtes ? Donc, il y a la conquête, oui, il y a la traversée, il y a les découvertes botaniques et animales. Et puis, il y a quand même aussi le plaisir de déboucher sur l'océan Pacifique après tous ces dangers de la traversée du détroit de Magellan. Le détroit de Magellan leur a donné, on pourrait dire bien du fil à retordre, mais surtout a provoqué bien des avaries au bateau. Et donc, quand au bout de 54 jours, ils ont fait les 114 lieues qui débouchent sur l'océan Pacifique, la joie d'être sorti de la souricière est si forte que l'équipage entonne un tédéum d'action de grâce, comme peu de loups de mer en ont fait jusque-là. Les dangers sont écartés. Le capitaine pense maintenant qu'il va pouvoir voguer au large dans cet océan au doux nom, Pacifique, qui promet une navigation pacifique, avec des découvertes de faune et de flore magnifiques, bien sûr. Alors cet océan, au départ, pas si pacifique que ça. Hein. Magellan l'avait baptisé ainsi, bien sûr, après avoir traversé le détroit, donc il était soulagé, comme Bougainville et son équipage. Mais il n'empêche qu'au début, la boudeuse et l'étoile doivent tout de même supporter à nouveau des vagues et doivent s'arrêter très vite pour calfater les avaries qu'ont connues les deux vaisseaux. Donc on s'arrête sur des îles qui au départ ne sont pas hospitalières et ce n'est guère qu'après avoir progressé dans l'océan Pacifique qu'ils pourront goûter une vie un peu plus tranquille. Parce que après avoir franchi le détroit, après avoir pris du retard dans le franchissement du détroit, eh bien, il n'y a plus suffisamment de provisions à bord. Et ce n'est pas facile, surtout, d'aborder sur les îles. Un certain nombre d'îles présentent des spectacles grandioses, oui, par exemple des soleils radieux qui s'élancent de l'océan au-dessus de pics montagneux qui tranchent sur le bleu sombre du ciel, mais surtout des écumes de vagues qui s'arrêtent, oui, sur les anneaux de coraux qui entourent très souvent les îles. Alors, végétation exubérante, végétation prometteuse, mais danger pour aborder, et donc manque de vivres frais, Vous savez, c'est comme dans « Il était un petit navire ». Non, ils ne sont pas affamés, mais ils ont le scorbut pour un certain nombre d'entre eux parce qu'ils n'ont pas suffisamment de vivres frais dans leur cale. Et les biscuits, c'est bien, les salaisons, c'est bien, mais ce ne sont pas des produits frais. Et donc, un certain nombre de marins commencent dans le journal de Bougainville ou dans le livre de Michel Kahn sur la clandestine, Jeanne Barret, un certain nombre de marins donc commencent à avoir les gencives qui saignent, les dents qui se déchaussent et d'autres horreurs concernant en effet toutes ces difficultés de la navigation. Alors, ô joie, ils finissent par arriver sur une île qui se nomme localement Tahiti. Tahiti qui s'écrit à l'époque T-A-I-T-R-E-M-A-T-I-E-N. Tahiti avec un H, c'est une orthographe qui ne deviendra courante qu'au XIXe siècle. Enfin, en tout cas, Tahiti ou Tahiti, eh bien, les marins, les capitaines, les matelots sont bien contents d'arriver parce qu'en débarquant à Tahiti, dans une anse paisible qu'ils ont trouvée à l'abri des récifs coralliens, eh bien, en débarquant à Tahiti, ils peuvent retrouver, en effet, tous ces merveilleux produits tropicaux, ces fruits juteux, ces animaux, bien sûr, qu'ils chassent, et puis ces poissons qui leur permettent de retrouver des vivres frais et qui leur permettent, bien sûr, de se nourrir à nouveau de façon équilibrée. Avec les populations de Tahiti, les matelots font du troc, un troc qui se déploie dans des hangars sur la rive. On échange des clous, et oui, de la ferronnerie, des clous, des perles, enfin de fausses perles, des grains de cristal, des boutons de plomb ou d'étain, des petits outils. On échange donc tout ce matériel plutôt de fer contre des fruits, des poissons, des coquillages, des coques, des poules et des cochons. Le spectacle est très amusant, songe Jeanne. Et oui, les indigènes vont peut-être proposer des plantes. Il faut aller voir. Alors, c'est vrai qu'on fait connaissance avec la végétation et les fruits et on va à nouveau herboriser. Mais quelquefois, les relations sont difficiles avec les indigènes. Les indigènes qui s'intéressent beaucoup à tous ces petits produits, vous savez ce qu'on appelle la pacotille. Les indigènes qui s'intéressent beaucoup à la pacotille s'intéressent à tous les objets occidentaux. Et les marins leur reprochent bientôt d'être des voleurs. Bah oui, des voleurs, parce qu'au fond, tout ce qui leur font envie, tout ce qui leur fait envie, pardon, leur paraît séduisant. Tout ce qui leur fait envie est à portée de main et tout ce qui leur fait envie est quelquefois soustrait au propriétaire. Encore un petit coup dans le micro. Donc, les indigènes voleurs, c'est une légende qui se... Enfin, c'est pas une légende, en fait. Disons que c'est une appréciation négative qui se répand parmi les matelots et qui rend quelquefois les relations difficiles avec les indigènes. Mais il n'empêche que chacun apprécie cette escale à Tahiti. Jeanne et Philibert ont beaucoup herborisé. Et surtout, les matelots, sous les ordres de Bougainville, ont rapporté à bord tout ce qu'il fallait pour recharger les réserves alimentaires. Et en effet, il leur en faut. Il leur en faut parce que la navigation, on revient toujours sur ces difficultés de navigation. La navigation est difficile. Quand ce ne sont pas les tempêtes, ce sont les calmes plats qui gênent la progression des équipages. Et donc, quand la navigation se prolonge, eh bien, on se retrouve à nouveau dans une situation qui était celle de l'arrivée à Tahiti, c'est-à-dire des vivres qui manquent, ou plutôt des vivres frais qui manquent. Et donc, à nouveau, les matelots et le capitaine, surtout, avec son second, cherchent à débarquer sur les îles. Mais les îles, à nouveau, se révèlent entourées de récifs. Et il y a une espèce d'errance dans ce Pacifique du sud et du centre, une espèce d'errance des bateaux parce que la navigation ne permet pas le ravitaillement. Je vous lis. Bougainville est oppressé. L'étoile et la boudeuse poursuivent une navigation erratique, allant d'île en île, oui, mais avec difficulté. Les nerfs s'usent. Le capitaine sait que trouver une région hospitalière est vraiment difficile. Une région où abonde ce qu'il cherche, les métaux, les épices. Une région où il pourra aborder sans danger. Parce que, à nouveau, les provisions tirent à leur fin. On a même déjà réduit les rations. L'inquiétude souvent défigure les visages. Les officiers de bord, oui, les officiers de bord ont un faciès fermé. Et certains marins sont résolus à manger des rats en cachette parce que le scorbut fait nouveau des ravages parmi les équipages et même parmi les officiers. Cette navigation est vraiment risquée, elle est vraiment toujours une aventure. Alors, à l'issue de certains incidents de débarquement avec des indigènes qui ne sont pas hospitaliers, eh bien, on regarde plusieurs fois les îles qui entourent les vaisseaux. Et puis, à l'issue d'un incident justement avec des indigènes, à l'issue d'un genre de rixe avec ces indigènes dans laquelle Jeanne s'est trouvée mêlée, un officier de bord a découvert qu'elle était une femme. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Demande le capitaine de Bougainville, en jetant sur Jeanne un regard d'étonnement. « Qui êtes-vous »« Monsieur, quel est ton nom de naissance ?» Chercher plus longtemps à traverser la vérité ne servirait à rien à Jeanne. Et elle répond « Jeanne Barret, monsieur ». C'est une expression de triomphe sur le visage du second et une expression peinée sur le visage de Bougainville. Mais de toute façon, la navigation doit continuer. Alors le fond de cale, les fers que Jeanne avait imaginés, eh bien non, heureusement, ça ne sera pas pour elle. Elle a le cœur lourd, bien sûr, mais cette fois-ci, elle échappe à la punition. Les lois de la marine sont inflexibles, il y aura sûrement un moment où elle devra payer son incivilité, disons son mensonge. Mais en tout cas, dans un premier temps, les capitaines et seconds ont d'autres chats à fouetter. À nouveau, les viandes salées ont pourri et les matelots leur préfèrent les rats. Mais à nouveau, les rats ne suffisent pas. Et il faut s'arrêter, même dans le danger, même en franchissant des barrières de corail. On se dirige vers les Moluques pour pouvoir trouver des abordages qui ne présentent pas trop de périls. Souvent, la mer est mauvaise entre les îles. Les absences de vent ou les tempêtes alternent. Et vraiment, cette navigation est une véritable aventure. Quelquefois il pleut, c'est grande pluie tropicale et la pluie n'arrange rien à la santé des malades. De nouveaux scorbutiques se déclarent sur les deux navires. Les hommes partent en quête de nourriture sur certaines îles, reviennent trempés et même la pêche est quelquefois bien ingrate. Les sangliers ne se laissent pas attraper. Les choux palmistes, il faut les disputer à des fourmis énormes qui mordent aussi. Et il y a des animaux dangereux, des scorpions, des serpents, des animaux bien peu engageants et en tout cas pas comestibles. Alors les marins se rabattent sur des insectes, sur des perroquets, des tourterelles, des coquillages, mais ils maigrissent, ils font souvent peine à voir. C'est bien difficile cette navigation. C'est une alternance de pays de rêve et de pays de cauchemar. Alors vite, vite, quittons les îles inconnues et allons vers les terres connues, les terres de la mer des Indes. Vous savez, ces Indes galantes dont on a écouté la musique tout à l'heure. Une musique imaginaire, enfin une musique réelle, mais sur des terres imaginaires, et qui n'est pas toujours, on l'a vu, une terre de rêve. Il n'empêche que, en gagnant les Moluques, on va retrouver des terres connues et des passages connus. Les marins un jour tuent une tortue et la viande de la tortue est bienvenue, oui. Il y a de quoi en donner à tout l'équipage. Il y a de quoi nourrir les malades. Et il y a de quoi retrouver ces passages maritimes connus dont on a parlé déjà. Les navires avanceront désormais à travers des mers déjà découvertes, fréquentées par les Européens, jalonnées par leurs comptoirs. C'est la fin du cauchemar. C'est une autre belle vie tropicale en perspective. Alors cette vie tropicale, bah oui, Jeanne, bien sûr, va la rechercher avec Philibert. Ils vont à nouveau débarquer très souvent pour herboriser et ils vont peu à peu naviguer à travers ce qui est maintenant l'Indonésie, puis traverser l'océan Indien et débarquer aux îles françaises. Vous savez, les îles françaises qui sont devenues depuis l'île Maurice et l'île de la Réunion. Il y a, à ce qui s'appelle à l'époque l'île de France, un botaniste qui était celui qui avait suggéré le départ de M. Commerson à Bougainville. Ce botaniste, de façon assez amusante, surtout pour l'époque, s'appelle M. Poivre. Alors oui, M. Poivre, qui avait révélé l'existence de Commerson à Bougainville, c'est lui qui les accueille sur l'île de la Réunion, enfin l'île de France. Et ce monsieur Poivre va être une véritable bénédiction, peut-être pour les équipages, parce qu'en effet, il leur permet une relâche reposante, mais surtout pour Commerson et pour Jeanne. Il les abrite dans un refuge bienvenu, il leur procure un logis dans son domaine, et il leur permet de classer les plantes, d'herboriser à nouveau et de s'apercevoir qu'ils ont fait des découvertes totalement merveilleuses en ce qui concerne justement les nouveaux végétaux, les nouveaux insectes et les nouveaux petits animaux qu'ils ont découverts. À ce titre, on peut s'apercevoir dans le journal de Bougainville et donc dans la clandestine du voyage de Bougainville, on peut s'apercevoir que le travail de Commerson et de Jeanne avec lui, c'est non seulement un travail de botaniste, mais un travail en effet de scientifique qui a étudié les animaux et les insectes. On se rend compte que Jeanne a même fait un travail de taxidermiste. Elle a rendu possible l'étude des animaux en les conservant, puisqu'elle savait comment sécher, comment empêcher le pourrissement des peaux, par exemple. Et donc, elle rapporte et elle fait découvrir à Monsieur Poivre un certain nombre de petits animaux, un certain nombre d'insectes, un certain nombre de plantes et d'épices que l'on ne connaissait pas jusque-là. L'île de France, oui, c'est un véritable plaisir. L'île de France, c'est un peu les retrouvailles avec des personnes qu'on connaît, avec bien sûr des notions qu'on connaît. Et puis, c'est aussi, on l'a vu déjà en Amérique du Sud, on l'a vu déjà à Tahiti, c'est aussi la redécouverte, cette fois, de végétaux que on trouve merveilleux, les fruits et les légumes des tropiques, les fruits et les légumes des tropiques que Jeanne, avec Philibert, bien sûr, va pouvoir classer, va pouvoir répertorier et va pouvoir faire envoyer au magasin du roi, aux recherches scientifiques du roi, qui, bien sûr, vont s'enrichir de ces découvertes. Lorsque Bougainville publie en 1771 son « Voyage autour du monde par la frégate du roi la Boudeuse et la flûte l'étoile », il fait une communication qui est aussi une communication scientifique. Toutes ces découvertes ont été envoyées au magasin du roi et il n'y a pas que la framboise de Boéro, la pomme de Cythère ou la bougainvillée. Il y a plus de 500 plantes, il y a plus de 200 nouveautés qui ont été, dans le domaine animal aussi, répertoriées par Philibert et Jeanne ou Jean. Jeanne a même été excusée. Elle a dit pardon aux agents du roi à l'île de France et elle a pu s'y installer. En fait, arrivé à l'Île-de-France, M. Poivre a demandé à Philibert de faire une nouvelle expédition vers Madagascar et Jeanne, elle, est restée à herboriser et classifier ses découvertes, précisément à La Réunion. Et malgré tout, les amants vont être séparés parce qu'au retour de Madagascar, Philibert retombe malade d'une faiblesse de sang, comme on disait à l'époque. Et Philibert meurt dans ces années-là. Alors Jeanne demeure encore longtemps à l'Île-de-France avant de rentrer précisément en France. Avant de rentrer, après avoir épousé un militaire, un matelot justement, et elle devient la première femme qui a fait le tour du monde. C'est là-dessus que nous allons nous quitter, le tour du monde de la clandestine du voyage de Bougainville. C'est ce que nous a raconté Michel Kahn, avec bien sûr l'aide du voyage de Bougainville et du supplément au voyage de Bougainville. Alors, à bientôt, bonne journée, bonne semaine à Marseille et ailleurs.